Maïs, sa sœur orientale. J'ai réfuté totalement cette question.
Moi, j'ai été libre de combattre au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonne semaine à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Octobre 2013, octobre 2004, cela fait exactement un an que les travaux des concertations nationales se sont clôturés à Kinshasa. Lors de la clôture de ces travaux et s'adressant au Congrès, le président de la République avait annoncé le respect des recommandations formulées par les concertateurs. Quel regard avez-vous sur la mise en œuvre de ces recommandations? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Sylvain Matundou est à la technique. Fais-agi du Bongonda à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Ben Kabamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous recevons dans ce studio Henri Senga, qui est membre de la société civile et qui représente d'ailleurs la présidence donc d'un groupe des églises de réveil. Bonjour Monsieur Henri.
Bonjour, bonjour Gilles.
Vous êtes comme tout observateur aujourd'hui par rapport à la situation de l'heure qui vous concerne aussi, vous membres de la société civile, parce qu'on peut dire aujourd'hui les concertations nationales n'ont été qu'un échec, comme le pensent certains observateurs.
Ben voilà, dire que les concertations nationales étaient un échec ou une réussite n'est pas là le problème. Moi, j'ai peut-être une autre manière d'aborder la question. Je me suis dit, est-ce qu'il y a eu effectivement concertation nationale? C'est ça la question que j'étais en train de me poser. Et par rapport à concertation nationale, qu'est-ce que chacun de nous entend par là? Parce que je me dis, si c'était vraiment ça, la concertation nationale, c'est que pour moi, elle n'a même pas encore commencé. Donc oui, aujourd'hui, lorsque les gens se posent bien des questions, ça a été un échec, et c'est par rapport aux résolutions, bien entendu. Mais est-ce que, dès le départ, on avait su respecter, on avait rempli tous les critères de départ,
les préalables,
et tous les préalables. Mm-hmm. Est-ce que c'est comme ça que les choses devaient se passer? Est-ce que ceux qui ont été là, ce sont ils incarnaient la représentativité selon toutes les couches de la population qu'il y a au niveau de la population congolaise? Je me dis, il y a eu un problème, c'est vrai. Lorsque le besoin se fait sentir, autant élever le débat, pousser la logique jusqu'au fond, autant engager un débat sincère. Lorsqu'on se dit, parce que je suis juste le langage de ceux qui parlaient en ce moment-là, il y a pratiquement une année aujourd'hui, ils disaient au Palais du Peuple, nous avons fait un état des lieux, nous avons constaté qu'il y avait un malaise au milieu de nous. Qui était mal à l'aise? Ah, s'il y avait réellement un malaise, l'a-t-on identifié et avec qui devait, qui devait être acteur dans la chose? Donc je me dis, c'est un peu tout ça qui pose problème.
Donc vous parlez de premiers préalables qui devraient être remplis, notamment la représentation, la représentativité,
par
qui devait participer à ces concertations nationales. Déjà au départ, ces préalables ont été biaisés. Mm-hmm. Alors d'aucuns parlent également d'un langage franc, mm-hmm, qui devait au fait sortir de deux parties, c'est-à-dire la majorité et l'opposition. Vous êtes de la société civile, est-ce que vous partagez cet avis qu'il n'y a pas eu un langage franc entre les deux parties?
Il n'y a pas eu un langage franc, d'autant plus que je ne cesse de vous le dire dès le départ, que les préalables n'ont pas été réunis. Vous ne pouvez pas parler d'un dialogue de ce niveau-là. Si vous êtes sérieux, vous prenez l'honorable Aubin Minaku et vous prenez l'honorable Kengo et vous dites c'est le présidium. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de facilitateur, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a rien, rien de tout ça. C'est deux individus qui incarnent chacun sa force politique et ce sont les deux représentants des forces qui sont au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je me dis que l'honorable Kengo, par exemple, lorsqu'il parle au nom de l'opposition, Alors que, en temps sérieux, non. Lui devait être compté parmi ceux qui sont au pouvoir. Donc, honorable Aubin Minako parle aussi au nom de la majorité au pouvoir. Je me dis, quelle était la place de la société civile? Comment est-ce qu'on a constitué les listes des participants? Je me dis, on ne pouvait même pas, à partir de cela, engager le véritable débat. Il y a eu beaucoup de blocages. Il ne pouvait pas. Le véritable débat, c'est la démocratie au pays. Est-ce qu'il y a démocratie aujourd'hui?
Donc pour vous, c'était déjà la force de la mesure où on a accordé le présidium à ces deux grands partis, en tout cas les plateformes phares de la vie politique. Et sur quoi il ne devait pas avoir un langage franc, comme chacun tirait déjà son côté.
Oui, c'était un langage, un marché de dupes, en fait. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça, en attendant que j'ai un autre terme. Mais je crois que c'est, moi je qualifie ça d'un marché de dupes. Alors vous avez tous ces gens-là, vous avez, ils vous ont dit qu'ils étaient mal à l'aise, ils étaient mal à l'aise. Qui était mal à l'aise? C'est le peuple congolais ou c'est les deux groupes qui étaient là?
Parce qu'il n'y avait pas la cohésion nationale.
Il n'y avait pas de cohésion nationale. Vous savez, moi aujourd'hui, en tant que membre de la société civile, je suis pasteur, je représente un groupe, n'est-ce pas? En tant que pasteur, je me dis, l'Église, c'est parmi les structures sociaux culturelles les plus importantes de notre pays. Mais quelle était la place de l'Église?
Mais nous avons vu l'Église, en tout cas l'histoire du pays, à moins qu'on soit né de la dernière pluie, on sait que l'Église a participé par plusieurs fois, en tout cas je parle des confessions religieuses, que ce soit l'Église catholique, que ce soit l'Église protestante, à une certaine mesure, ils ont joué la médiation. En tout cas, au moment opportun ou au moment voulu, on a associé ces églises et nous avons vu s'il y avait la volonté politique selon certains observateurs, je crois que les choses pourraient avancer. Mais il y a eu toujours ces obstacles-là, c'est-à-dire la mentalité des politiques qui pesait ou qui construit encore un obstacle pour que effectivement, la médiation puisse être faite en toute liberté ou en toute indépendance.
Mais c'est pour ça que j'ai dit, la médiation fait partie des principes de base. Vous savez, un dialogue à ce niveau-là devait nécessairement avoir un médiateur. Et ce médiateur-là, il pouvait être, comme c'est une histoire entre Congolais, ici, vous voyez, dans la société civile, il y en a encore, des têtes, il y en a, des gens qui peuvent aider les politiciens à aller en profondeur par rapport à
ça. D'accord.
Oui. Vous savez, lorsque vous prenez, comme je vous l'ai dit, je ne m'attaque pas aux individus, même eux, s'ils me suivent, ils pourront m'excuser que je fasse tout le temps allusion à eux. Je me dis, quand vous prenez l'honorable Kengo, il est tout aussi mal à l'aise que ceux que lui qualifie de ses opposants politiques, de ses adversaires politiques, les gens de la majorité. Autant la majorité a une épine sous son pied, parce que bon, il y a eu perturbation du calendrier électoral, il y a eu tout ce qu'il y a eu, maintenant on ne sait plus quelle est la forme que nous présentons de l'État à la face du monde. Autant lui aussi, l'honorable Kengo n'est pas très très à l'aise, il se dit, bon, moi aussi, je ne suis pas différent d'eux. Alors lorsqu'ils se retrouvent, les deux, vous avez vu comment est-ce qu'on a constitué les listes, c'est ceux qui étaient proches de l'honorable Aubin Minako, pas toute la majorité, même au niveau de la majorité, on n'a pas vraiment consulté toute la base. Donc c'est l'honorable qui a regardé ces hommes de confiance et tout ça là, des gens qui peuvent, et c'est comme ça que les gens se retrouvent. L'honorable Kengo aussi a fait la même chose de son côté. Et maintenant quand ils se retrouvent, les deux groupes, ils vous disent non, c'est ça les concertations nationales. Alors, et ils voudraient nous imposer les résolutions.
Et notre obstacle pour certains observateurs, avant que nous ouvrons, nous passons de l'autre côté des standards, c'est le facteur temps. Parce que nous avons vu le gouvernement congolais qui devait en principe s'impliquer pour la réussite de ces assises, posait déjà un problème de temps et le problème des perdièmes. Déjà en amont, il y avait déjà ce préalable qui souffrait en tout cas de...
Mais c'est tout ça là, c'est tout ça là pris dans l'ensemble qui me fait dire aujourd'hui que si c'est les concertations nationales, c'est que les véritables concertations nationales n'ont pas encore commencé. On ne peut pas se poser aujourd'hui la question, l'applicabilité des résolutions et tout ça, ça ne peut pas aller. Là-dedans, par exemple, je vous ai dit que les débats de fond n'ont pas été abordé tout à fait.
Quel, serait le débat, quel devait être l'objet?
Il y a par exemple, le cadre légal. Quand vous dites qu'il faut, parce que entre autres recommandations, on avait suggéré la formation d'un gouvernement de cohésion nationale. Ce gouvernement-là reposerait sur quoi aujourd'hui? Il reposerait sur quoi? Vous voyez comment est-ce qu'on a présenté, par exemple, qu'on a abordé la question de la révision constitutionnelle. Donc, c'est vraiment une confusion. Et on est habitué à ça au Congo, finalement. C'est là que je me dis, réfléchissons-nous. Nous avons déjà acquis une certaine maturité. Aujourd'hui, ce gouvernement, vous le mettrez en place comment? Sans retoucher la Constitution. Or, les mêmes personnes, lorsqu'ils vous parlent de la Constitution et de la révision de la Constitution, ils vous disent que c'est une mauvaise chose. Même les gens qui ont accepté, qui ont formulé les recommandations, ils vous disent que la révision constitutionnelle, c'est une mauvaise chose. Si c'est une mauvaise chose, votre gouvernement la reposera sur quel
cadre légal.
Voilà. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a, c'est à chaque fois, on a été même, souvenez-vous de la conférence nationale, de toutes ces choses. On parle de la démocratie sans aborder la véritable démocratie. Vous savez, la démocratie, ce n'est pas un slogan du genre « hippipi pourra » et tout ça là, « oye, oye ». Non, ce n'est pas ça. Je crois que la démocratie, c'est une culture, c'est tout ça là. Est-ce que les gens qui parlent aujourd'hui au nom de la démocratie, je prends les partis politiques les plus importants, les plus en vue dans notre pays. Regardez, dans quel parti où est-ce que vous avez déjà vu la démocratie? Il n'y en a pas. Partout,
des élections primaires.
Il n'y en a pas, il n'y a pas d'élection primaire. On nomme les secrétaires. On nomme tout le monde et à tous les niveaux.
Henri Senga, on va revenir à vous, c'est vrai, c'est un point de vue de la société civile. On va ouvrir les débats avec les auditeurs, parce que c'est leur émission. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous avons le premier auditeur pour ouvrir ce débat. Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour Jalongen Boué, bonjour à l'invité.
Alors je l'ai dit tantôt, octobre 2014, cela fait exactement un an, que les travaux de concertation nationale se sont clôturés à Kinshasa. Alors quel regard avez-vous sur la mise en œuvre des recommandations qui sont sorties de ces assises?
Merci beaucoup Pierrot de la parole Kokumba Dudje. Je voudrais cet après-midi compartimenter mon intervention en quatre points. Le premier, c'est savoir est-ce qu'il était important d'organiser ces concertations. Le deuxième, c'est sur le bilan. Le troisième, sur les causes qui font que rien ne marche. Et j'atterrirai avec les recommandations. Par rapport au premier point, moi je pense qu'il était important et opportun d'organiser les concertations. Car nous sommes africains et il est des traditions africaines. Lorsque ça ne marche pas, qu'on puisse se parler. Souvenez-vous des arbres à la palabre. C'était donc important. Je ne voudrais pas dire comme l'invité que les questions des fonds n'ont pas été traitées. C'est faux. Tous les secteurs de la vie nationale ont été traités. Le problème, ce n'est pas le manque d'intelligence qui a réfléchi. Ce n'est pas le manque des questions des fonds qui ont été traitées. C'est plutôt le manque de volonté de réaliser ce qu'on a décidé. Le constat, deuxième point, est négatif. Jusqu'aujourd'hui, il a été recommandé ou il a été décidé plus de 500 recommandations. Et à ce jour, je pense qu'il n'y a qu'une dizaine qui ont été exécutées. Alors, qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, l'on n'arrive pas à mettre en œuvre les résolutions prises lors des recommandations? Moi, je pense que les mêmes causes ont encore produit le même effet. Premièrement, c'est les manques ou la mauvaise volonté politique. Je voulais parler du manque de volonté politique. On reconnaît la grandeur d'un homme politique lorsqu'il s'est exécuté ou réalisé ce qu'il a pris comme résolution. Il y a un comité de suivi qui existe. Il y a les gouvernants qui sont censés exécuter, mais qui nous disent jusqu'à ce jour qu'est-ce qui fait que ça ne puisse pas être mis en œuvre. Deuxièmement, il y a le manque de moyens. Prenons par exemple le MCJR, les recommandations relatives à la décentralisation, aux élections, ou encore à la réhabilitation des certains secteurs de la vie. Comment voulez-vous que ça puisse être réalisé sans moyens? Il y a une chose de prendre des résolutions, il y a une autre chose d'avoir de moyens pour le réaliser. Troisième chose, il y a eu opportunisme. Beaucoup sont allés concerter, pas pour l'intérêt général, mais pour des intérêts mesquins et privatistes. Alors lorsqu'on ne sait pas prioriser l'intérêt général au détriment des intérêts privés, on finit toujours par aboutir à des mauvais résultats, car les prémices, lorsqu'elles sont fausses, la conclusion est mauvaise. Je voudrais rejoindre l'invité pour parler de l'immaturité des hommes politiques. Lorsqu'on va en concertation, on va d'abord pour l'intérêt de la nation. On ne va pas pour satisfaire son parti politique. Il a parlé même de parti politique congolais qui n'ont même pas un esprit démocratique au sein d'eux. Les hommes politiques doivent être matures. Ceux qui bloquent aussi leur attitude. Vous verrez un opposant qui passe les matins qui soutient les concertations et à 18h il change. Pensez-vous, avec cette attitude, on peut vraiment avoir un gouvernement de cohésion nationale? Alors, je voudrais aboutir à mon quatrième point, monsieur, avec les propositions. Je pense que la mise en œuvre des concertations passe par quatre points essentiels. Premièrement, c'est la volonté politique. Il n'y a pas de changement sans le minimum de volonté. Nous savons que c'est difficile, on ne peut pas transformer le Congo au ciel pour un premier temps, mais avec un peu de volonté politique, on pourrait réaliser certaines recommandations. Deuxième chose, il faut que l'autorité budgétaire, je fais allusion au Parlement, soit conséquente. Il ne suffit pas d'applaudir les recommandations, encore faut-il s'y battre. Voler du pouvoir, bien sûr, mais sans les moyens, on ne peut pas arriver au pouvoir. Troisième chose, il faut savoir faire la priorisation des recommandations. Dans la vie, il faut différencier le principal de l'accessoire, le conjoncturel du structurel. Parmi ces recommandations, il y a celles qui sont principales, notamment les élections, la décentralisation, le gouvernement des cohésions nationales. Aussi longtemps qu'on ne sait pas prendre la priorité des choses, on arrivera toujours à des résultats non escomptés. Mais je voudrais finir par la rationalisation de l'homme politique. Chers hommes politiques congolais, de l'opposition de la majorité. L'on doit savoir que lorsqu'on fait la politique, on le fait d'abord pour la nation. Lorsqu'on va en concertation ou au dialogue, peu importe la terminologie, on le fait pour l'intérêt de la nation. Le jour où tout le monde aura comme vision le réel besoin du peuple congolais, je pense qu'on aboutira le
résultat. Voilà, merci. Merci beaucoup.
Voilà mon humble avis hier.
Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà, Omar, nous retenons trois choses. Le manque de volonté politique, le manque des moyens pour arriver réellement à mettre en œuvre ces recommandations sorties des assises. Et puis, vous avez évoqué le facteur opportunisme, hein, des gens qui saisissent l'occasion donc pour des intérêts mesquins. Là, vous avez rejoint pratiquement un autre invité et vous souhaitez de tout le vœu que le gouvernement puisse repenser un peu sa façon de pouvoir, au fait, répondre aux recommandations des assises, des différentes assises que nous organisons afin de pouvoir quand même faire sérieux. Merci beaucoup Omar d'avoir appelé de Kinshasa. Galvani, vous nous avez rejoint. Bonjour, vous êtes à Mbujimayi, au Kasaï Oriental.
Bonjour le CDR, bonjour à tous.
Vous avez la parole, Galvani.
Merci beaucoup pour la parole. Oui, je sais même toutes les suggestions qu'a posé le programme. D'abord, concernant d'abord concernant l'opportunité, bien sûr, j'avais avec lui ensemble que l'opportunité, il y avait d'abord d'organiser le centre national. Parce que lorsqu'on dans une nation, dans une société, lorsqu'on évolue, il est d'abord important aussi de s'arrêter, de parler ensemble, de voir d'où venons-nous, où allons-nous, où nous en sommes en présent.
Tout à fait.
Alors maintenant, s'il y avait d'organiser les concertations nationales, il se pose aussi le problème d'ils vont participer.
Notre invité a parlé de cela, donc vous pensez que c'est aussi un préalable qui devait être étudié en amont.
Tout à fait, monsieur le journaliste.
Voilà. Alors aujourd'hui, les concertations nationales sont passées. Pour vous, vous pensez qu'effectivement, si on avait tenu compte de cet aspect des choses, on n'aurait pas eu les résultats qu'on a aujourd'hui.
Tout à fait, parce que le problème, si on voit les acteurs qui ont participé aux concertations nationales, ça doute un peu parce qu'avant d'abord les concertations nationales, parmi les acteurs principaux, il y avait bien sûr ceux de la majorité et de l'opposition et de la société civile. Et nous avons vu d'abord que l'opposition était divisée. Il y a une opposition qui est partie, qui a
participé à l'opposition
nationale, et l'autre qui n'est pas partie. Et si nous voyons que l'un de moi, l'idée de minimiser notre opposition, une partie de l'opposition, nous avons aussi une opposition qui n'a pas participé et qui
plus importante, selon vous.
Et aussi, est plus importante et représentative.
Bon, ça, c'est votre point de vue. Nous ne pouvons pas nous engager dans ce genre de débat. Quelle est la partie la plus importante que l'autre? Bon, voilà. Mais nous savons que ceux qui ont participé, c'était partie de l'opposition et qui ont adhéré à la convocation de ces assises, ils y ont participé, ils ont donné leur point de vue et les résultats sont sortis de ces recommandations, de ces assises. Nous demandons aujourd'hui quels sont les préalables qui ont fait qu'aujourd'hui, on n'a pas pu mettre ça en musique. Merci beaucoup, Galvani. Nous allons nous envoler vers l'Autriche, à Vienne. Franck, vous êtes là-bas. Franck, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à votre invité et à vos deux compatriotes qui venaient de mettre leur fond de vie avant moi.
Vous avez la parole, Brock.
Je vous en prie pour la parole. Monsieur le journaliste, nous savons bien que dans notre vie, le sérieux d'un homme, le sérieux des institutions auxquelles il peut appartenir se dégage quand chaque engagement pris, quand chaque parole prononcée, quand chaque promesse faite est matérialisée et respectée. Nous savons par ailleurs qu'il existe des imprévus dans la vie ou que les imprévus sont aussi inhérents à la nature humaine et surtout en politique, ils sont les gens. Mais seulement chez nous, nous sommes parfois habitués à, depuis des décennies, à écouter de très belles phrases, de très bonnes promesses, mais qui souvent restent seulement au niveau verbal. Et en suivant l'invité qui est là au studio et en suivant
les autres,
je crois que la question que nous devons d'abord nous poser, c'est de savoir si tous les préalables proportionnels par rapport aux objectifs de ces assises avaient vraiment été remplis. Et une des questions, c'est de savoir, est-ce que de part et d'autre, il y a vraiment volonté politique? Parce que parfois, chez nous, on peut argumenter, mais dans la plupart des cas, nous nous rendons compte que tel argument avec objectif de dire à l'autre, ôte-toi de là que je vais mettre. Le maître Omar venait de le rappeler. La politique ne se fait pas seulement parce qu'on sait argumenter. La politique a une mission, de construire des objectifs de la vie des citoyens dans la cité. Et quand on doit faire de la politique, on doit avoir une certaine vision. Mais est-ce que chez nous, quand ces gens-là, qu'ils soient de la majorité, de l'opposition ou parfois de la société civile, se battent, est-ce qu'ils mettent d'abord au centre les vraies préoccupations du peuple? Moi, personnellement, ce qui me pique un peu au cœur, c'est le fait de voir que on veut nous prendre pour des inaptes intellectuels, pour des cons, pour des gens qui ne sont même pas en mesure de comprendre ce qui est en train d'être fait là. Monsieur le journaliste, moi je vous pose la question. Vous venez de faire une longue promenade, vous avez été ici en Europe, vous avez été aux États-Unis d'Amérique. Je vous pose la question, vous comprenez bien le journalisme, la philosophie, la politique. Est-ce que vous connaissez un seul État, une seule nation qui peut vraiment se développer à base du sophisme ou à base de l'argumentation formelle? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on peut vraiment faire du sophisme l'épicentre, le plat de la politique?
Voilà,
mais pourquoi nous devons avoir
la question adressée, je ne pourrais pas vous donner
les autres, mais c'était oui, pas mis d'accord sur certains points vraiment sensibles, ça devait donner les résultats que nous avons.
Oui, c'est vrai, Franck, on a eu quand même à s'appeler à un certain moment, mais de toute façon, on sait que nous avons vécu, et ça n'a rien à voir avec les débats du jour, mais merci d'avoir contribué à cette émission, Franck, et surtout d'avoir appelé de l'Autriche, à Vienne. Nous allons peut-être nous retrouver demain dans un autre débat. Merci, Franck, d'avoir appelé.
Parole aux auditeurs.
Nous prenons deux messages que nous avons tirés de notre page Facebook. Célestin, Kapiamba, Kayombo. Les concertations étaient destinées aux opposants prétentieux et à la consommation étrangère. Ça n'était quelque chose de sérieux. Ils ont donc la NP, la manie de dire des choses. Ils réunissent tout juste après, comme les accords de Cascade, les accords de Lusaka, à Manileo et surtout la constitution actuelle qui va être remplacée par une autre. Jéomik Malonga, de premier abord, nous devons comprendre que le motif de ces concertations n'était pas d'apporter les changements du social des Congolais. Par ailleurs, les intentions de la dite cohésion nationale ont été masquées suite à la vigilance du peuple. Est-ce que ont été, je ne sais pas, masquées suite à la vigilance du peuple? Nous découvrons ça à peine, parce qu'il y a la peine d'être tombé sur notre page Facebook. Est-ce d'emblée, nous pouvons croire que les recommandations des concertations dépassent le projet des 5 chantiers et de Joseph Kabila? La RDC n'a pas besoin d'être transformée en paradis dans ces lasses des temps qui restent. Par contre, il faudra que ceux qui détiennent le pouvoir s'apprêtent déjà pour céder ces pouvoirs aux autres dans la paix. Henri Senga, vous êtes notre invité. D'abord, réaction pour cette première série des auditeurs.
Oui, je vais réitérer.
Il y a certains qui vous ont rejoint, notamment par rapport à l'opportunisme de certains hommes politiques.
Toute
mais aussi, il y a eu des accords par rapport à certaines interventions.
Toute personne animée du bon sens ne pourra que me rejoindre.
je réitère ce que je vous ai dit tantôt. Le véritable débat, les véritables questions de fond n'ont pas été abordées. Parce qu'aujourd'hui,
prenez le cas de l'Union, par exemple, la révision constitutionnelle, parce que ce n'était pas l'objet de l'ordre du jour.
L'histoire des
opposants,
les moyens, la représentativité, on devait réfléchir autour de toutes ces questions bien avant, ce n'est pas maintenant. Il ne faudrait pas qu'on prenne cela comme une excuse ou comme une sanction. Ou,
dans cette question de révision,
dit,
devait être traitée dans les concertations.
Beaucoup de choses. Il y a même la situation des moyens
qui sont posés concrètement.
Par rapport à la mise en œuvre. Vous savez, on n'est pas réaliste. Je me dis, l'opportunité était là. Parce qu'effectivement, il y a un malaise. Moi, je me dis, le tout premier malaise, c'est la forme de l'État que nous présentons actuellement. Si nous constituons cela comme une maladie, donc qu'il nous faudra trouver des remèdes, n'est-ce pas, pour soigner cette maladie. Est-ce que doit-on utiliser les produits périmés ou les produits de mauvaise qualité parce que tout simplement la RDC est malade? Je me dis non. Par là, je voudrais dire quoi? J'ai dit, ils le sont. Les véritables débats de fond, c'est quoi? Vous savez qu'aux États-Unis, le vice-président est plus important que le président. En fait, peut-être que je n'ai pas rendu ça exactement, mais on sécurise plus
la politique
le vice-président que le président. Alors, ici, chez nous, je me dis, il y a deux postes stratégiques. Vous avez le président de la République et vous avez le président du Sénat. Si aujourd'hui le président de la République est malade, parce que bon, on est en train de dire, est considéré comme une maladie, on est en train de dire que non, il ne doit pas renouveler, il ne doit pas, il ne doit pas, il ne doit pas. Mais qui doit le remplacer? Le remède,
le président du Sénat, constitutionnellement.
Bon, maintenant, le président
du Sénat, c'est la lettre du constitutionnel.
Un produit périmé. Comment est-ce qu'un produit périmé peut soigner un malade ou une maladie? Je me dis, ça va aggraver la situation du malade. C'est là que je me dis. Je dis, même la façon dont nous menons le débat. Vous voyez qu'on a abruti le peuple, en fait, en quelque sorte. Maintenant, on nous impose, c'est le résultat, on nous impose. C'est-à-dire, tout le monde est en train de dire, soit il faut maintenir les résolutions, soit. Dès le départ, tous ceux qui ont parlé, ils vous ont dit que les préalables n'étaient pas réunis. Donc, mais personne ne peut me contredire sur ce point-là.
Oui, on est tous d'accord.
Ils savent que les préalables n'ont pas été réunis, mais au niveau de l'application, de la mise en œuvre des résolutions, ils attendent quand même qu'il y ait ça et ils sanctionnent le gouvernement par rapport à ça. Ils vous disent que non, ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas de... Non, ce n'est pas question de volonté.
Ouais, les moyens,
la base est des...
Bien,
oui, même les moyens, ce sont les questions de fond, de base.
Et ceux qui pensent que la question des fonds, oui, alors, c'est plutôt les débats sur la révision constitutionnelle, comme vous l'avez dit, oui, mais aussi le mandat de l'actuel président qui touche à la fin, à sa fin, parce que la majorité ne veut pas entendre ça de ses oreilles-là. L'opposition martèle nuit et jour qu'il faut l'alternance, c'est ce terme-là qu'ils utilisent, l'alternance.
De tous ces gens-là, de tous ces gens-là, moi, si j'ai des mandations à faire en tant que membre de la société civile, je vais demander au chef de l'État de se prononcer sur cette question. Il doit, se prononcer, oui. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des moments où il se retrouve pris au piège de certains opportunistes qui sont autour de lui, qui pensent mieux les servir, qui pensent se présenter comme les plus dévoués pour le chef et tout ça là. Et alors, c'est comme le genre, il a fait un discours devant la nation concernant les concertations nationales. Mais est-ce que c'était réaliste? Maintenant, aujourd'hui, ça retombe. C'est lui qui porte le chapeau. C'est lui qui porte le chapeau. Maintenant, on a tendance à croire que c'est le chef de l'État qui n'a pas respecté les engagements. Alors que, bon, le pauvre, je m'excuse, il a été pris au piège. On lui a présenté des
documents. Du côté de la majorité, vous souhaiterez que le président se prononce?
Pour moi, le président doit se prononcer.
C'est
lui qui a pris l'engagement.
Ceux qui sont tous autour de lui.
Ceux qui sont autour de lui.
Parce que Mordicus, il persiste et signe qu'il faut la révision constitutionnelle pour accorder encore un autre mandat.
C'est ça que je l'ai dit à qui veut l'entendre. Je vous dis que les gens qui disent qu'il ne faut pas réviser la Constitution, ils ne veulent pas de la révision de toute la Constitution, ils voient le mandat du chef de l'État. Ceux qui parlent aussi du côté de la majorité, qui voudraient la révision de la Constitution, ce n'est pas la révision dans toutes les formes, mais ils voient comment pérenniser le règne du chef de l'État. Moi, je me dis que c'est très facile. Alors, il faut savoir cerner les deux choses. Il y a, par exemple, moi, je pourrais faire des recommandations parce que nous réfléchissons à autre chose. Pour moi, C'est une question seulement de demander. Je commence par ceux qui voudraient que le chef de l'État puisse rester là. Parce qu'au stade actuel, et l'opposition, et la majorité, nous sommes tous dans l'illégalité. Nous étions très mal partis. Tous ceux qui fustigent ou qui appuient cette constitution aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont été à sa nécessité. Ce sont ceux-là qui ont préparé l'ébauche. Ce sont ceux-là qui ont validé cette constitution. À l'époque, ils ne savaient pas qu'il y aurait un problème de moyens, qu'il y aurait un problème de ceci, cela. À l'époque, ils ne savaient pas qu'il n'y aurait pas volonté politique ou pas. Je me dis, aujourd'hui, ces gens-là vous disent, c'est ça qu'ils veulent. Non, la véritable question que nous devons nous poser, messieurs, le chef de l'État, vous dites que vous voulez la révision. Si c'était lui qui disait, on pouvait aussi lui poser la question autrement. Lui dire, monsieur le président, vous avez besoin de combien de temps pour être enfin satisfait que vous allez réaliser votre mandat et tout cela. Il va vous dire, j'ai par exemple besoin de 10 ans. Et après, vous allez lui dire, bon, monsieur le président, 10 ans, oui, mais on vous a déjà laissé autant d'années. On ne peut pas aller jusqu'à 5. On voulait seulement les 5 ans sans retoucher à la Constitution. Pour que vous puissiez être prêt à pouvoir quitter, et que vous puissiez finalement désigner votre successeur. On pouvait aussi aller du côté de l'opposition. Quel est votre problème? Vous voulez l'alternance. L'alternance doit commencer par vous-même. Regardez, je prends tous ces gens-là, ils sont présidents de leur parti politique depuis plus de 20 ans, 30 ans. Et il n'y a jamais eu d'alternance au niveau de leur parti politique. Comment est-ce qu'ils vont apporter l'alternance au sommet de l'État?
Voilà, Monsieur Senga, on va encore y passer de l'autre côté du standard, parce qu'il y a, en tout cas, il y a les téléphones continuent à sonner. On va prendre le docteur Richard, Maurice et Jules qui est à son gololo. Et docteur Richard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, docteur.
Bonjour, Pierre. Bonjour à l'invité.
Oui, rapidement, quel regard avez-vous sur la mise en œuvre des recommandations sorties de concertation nationale? Vous avez suivi notre invité et puis certains auditeurs qui vous ont précédé.
Oui, un regard de déception. Un regard d'acteurs immatures qui prennent le gâteau, le jettent par terre et piétinent. Un regard de... comment je peux encore continuer à argumenter. Je vois 1960 égale 2006 jusqu'à ce jour. Je vois aussi des querelles politiques byzantines. Je vois la magouille qui se concrétise par la tuerie du peuple. Et je vois aussi le clientélisme politique. Dans tout cela, c'est de regarder à 90% l'origine de ces hommes politiques qui nous empêchent par leur querelle, c'est quelle origine? Alors, ils viennent dans la majorité des rébellions. Et ils viennent aussi du interpartisme. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est pas seulement mobilisation des chefs et la secte.
Voilà, on a du mal pour le
malheur du peuple.
On a des petits soucis avec votre ligne, docteur Richard.
Est-ce que vous pouvez
bouger un tout petit peu? Ben voilà, c'est les députés qu'on vous demande.
Merci.
Voilà, alors allez-y, docteur Richard.
Oui, je disais, je suis déçu par ces gens qui se comportent comme des hommes politiques de 1960. Qui agissaient comme aujourd'hui. Clientélisme, mensonge, tricherie. Les tueries du peuple, comme ça s'est passé là-bas à Béni, et puis on fait des discours de compassion pour tromper, et puis à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Le fond, c'est quoi? La mamboutisation des chefs et la sécolisation des mandats.
Merci beaucoup, docteur Richard. Merci beaucoup, docteur Richard. Maurice, vous êtes à Kinshasa, dans la même ville province que docteur Richard. Bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi. Quel est votre point de vue, Maurice?
Merci, Pierre, de la parole. Bon, je voudrais rejoindre Dr. Richard dans tout ce qu'il a dit. Je veux dire ceci, que les concertations nationales, à mon avis, étaient une supercherie. Vraiment, c'est que Moussa Kabila a qualifié de conglomérat d'aventuriers, de profinistes. Vous comprenez que par la motivation même, on vous dirait que nous avions organisé ces concertations pour la cohésion nationale. Donc on sent que c'était vraiment de la tricherie et ils voulaient juste calquer fait que la résolution 2098 au point 14 mai a stipulé qu'il faut un dialogue transparent et inclusif qui aboutira à la réconciliation nationale. Ils ont voulu joués par des sémantiques. Au lieu de parler des dialogues, ils ont parlé des concertations. Au lieu de parler de la réconciliation nationale, ils ont parlé de la cohésion nationale. Et dans tout ça, sans respecter in extenso le texte tel que stipulé dans l'accord cadre et la résolution 2098. Alors, vous avez vu comment ces contestations se sont organisées. Au départ, il n'y avait personne qui ne pouvait croire. Cette opposition a dit non. Il y a cette opposition-là qui a participé avec eux. Enfin, qu'est-ce qu'il y a eu? On a appelé un monsieur. Ce monsieur-là est un expert en ce genre de situation. On lui dira de les aider à avoir certains opposants qui pouvaient sauter au gâteau. Et le monsieur, il suffisait seulement de dire qu'après les concertations, il y aura un gouvernement de cohésion nationale. Et vous avez vu
les résultats.
Et toutes sortes de capards, des remparts, des vers de terre, tout le monde a mordu à la maison. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont organisé ces concertations. Et cette concertation, vous avez vu, vous avez suivi le début à sa fin, c'était une histoire boutiquée à l'avance, qu'on avait avalisé par des gens qui avaient été déterminés à arriver à tout prix au pouvoir. Et à la fin, le médecin se retrouve que l'essentiel des personnes qui constituaient, qui bloquaient cette cohésion nationale, ne faisaient pas partie prenante de cette concertation. Alors, et la communauté internationale qui va réagir pour dire que cette concertation ne se conforme pas à l'esprit à la lettre de l'accord cadre et de la résolution 2098. C'est là où le problème a commencé. Et alors, à la fin, on dit que le gouvernement devait arriver. Et ces gens qui l'ont accompagné ont attendu et il n'y avait pas l'arrivée de ce gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils devraient abandonner.
Oui, mais Maurice, le programme de gouvernement, ça ne sera pas la solution idéale. Nous avons vu en Belgique, ça fait plus de 365 jours, on l'a vu, et les Belges ont fonctionné sans gouvernement, et c'est l'administration qui a tourné en plein régime.
Ben, en fait, je ne suis même pas dans la logique de l'attente de ce gouvernement, parce que ça ne pas ce gouvernement, ce n'est même pas une panacée. Les problèmes ne se situent pas à ce niveau. Le problème se situe au respect de l'accord cadre de l'Addis Abeba. On veut un dialogue sur la facilitation des Nations Unies, du représentant spécial des Nations Unies, M. Kovner, et des Saïd Sanit. Ce sont les deux-là qui doivent organiser, appeler les deux parties. Parce que ceux qui ont organisé, c'était juste pour récalquer leur majorité, qui constituent le problème. Et ceux qui n'ont pas participé, qui sont de l'opposition, qui constituent un autre problème. Comment voulez-vous un problème convoquer un autre problème pour trouver solution? Vous avez mis ça au monde, M. Vier.
Merci beaucoup, Maurice. Voilà, donc vous craignez qu'un problème puisse appeler encore un autre problème. Nous risquons de tourner en rond, ça sera un cycle, un continuum des problèmes. Et c'est ce que vous ne voulez pas qu'on puisse démarrer. Merci beaucoup, Maurice, d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Jules qui est à Songololo dans les Bas-Congo. Bonjour, Jules.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Jules.
Bon, moi, je dirais ceci. Avant la concertation égale après la concertation. Parce que nous voyons ce qui se passe. Il y a une maladie incurable au Congo. Et cette maladie incurable qui fait que la RDC ne puisse pas peser sur les plans internationaux. Vous risquez de me poser la question, quelle est cette maladie? C'est le non-respect des textes. C'est ça qui tue le Congo. Le non-respect des engagements. Le non-respect, non-application des recommandations. C'est ça qui fait que le Congo soit à genoux jusqu'aujourd'hui. Le jour où nous allons commencer à respecter nos engagements, à appliquer les recommandations, c'est ce jour-là que la RDC commencera à payer sur les plans internationaux. Comment voulez-vous avoir les gens qui signent les choses eux-mêmes, mais n'arrivent pas à respecter ce qu'ils signent? Et si nous mettons ces gens-là dans une balance, ils pourront peser combien de kilos? Donc, c'est ça la maladie du Congo. Mais les guerres qui sont partout au Congo, si vous voyez la cause, on vous dira que non. Le non-respect des accords, le non-respect des engagements, le non-respect des recommandations. Comment vous promettez que vous n'allez pas respecter demain? Vous êtes qui? C'est ça, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup.
Nous demandons à nos autorités de savoir à
l'extérieur
ce qu'ils signent. Et à ce moment-là, la RDC ira en avant. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jules. On va prendre Théophile qui est à Kananga. Théophile, bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour. Aux auditeurs de la radio Capi, Je félicite en partie l'invité pour sa manière d'expliquer les choses. Je viens de saisir l'occasion à partir des propos de Jules. Il dit qu'il y a une maladie au Congo. Cette maladie, moi, je la considère dans le sens contraire que lui. La maladie, mon point de vue, c'est lorsque on cherche à avoir la démocratie et son contraire à la fois. La démocratie, c'est quoi? Et tout le monde connaît la définition de la démocratie, c'est la prise de pouvoir d'une manière légale, démocratique, et de la façon de le conserver le plus longtemps possible. Donc, moi, je suis surpris lorsque les Congolais s'habituent à des négociations qui n'aboutissent à rien, à des négociations qui poussent tout le monde à gagner chacun son morceau de... Non. Les consécrations, mon point de vue, ça est une occasion que les Congolais avaient saisie pendant que le pays était en guerre et qu'il fallait qu'ils puissent se retrouver, qu'ils puissent se dire en vérité le mal qui se trouvait entre nous pour gagner la guerre. Donc, après la guerre et que nous nous trouvons dans la période de la paix, je ne vois pas pour quelle raison on peut détruire la démocratie pour créer un gouvernement qui n'est pas démocratique, qui ne peut pas respecter la majorité au Parlement.
Oui, notre invité a dit tout à l'heure, ce gouvernement reposera sur quel cadre légal. Donc je crois que vous le rejoignez, pratiquement, vous l'avez dit d'ailleurs en début. Merci beaucoup, Théophile, d'avoir appelé le Kananga, 081-890-6315, pour votre intervention en direct partout où vous êtes.
Chaque jour, la fréquence de la PMI le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet. pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, ce magazine d'échange citoyen. Michel, vous êtes à Matadi, on va vous accorder la parole dans un instant. Il est temps de revenir à notre invité, Henri Senga, membre de la société civile et aussi président d'un groupe de l'église de Radeil. Voilà, vous avez suivi cette longue deuxième série des auditeurs. Alors, comment vous réagissez d'abord?
Ma réaction est la même. Je ne vais pas me fatiguer jusqu'à ce que je me fasse comprendre. Je dis ceci. Le problème n'est pas le respect des textes, comme on voudrait bien l'entendre.
Oui, donc vous qualifiez de la supercherie, le non-respect des textes, le manque de la culture politique.
Vous savez, hein, qu'on se dise un peu la vérité en face. Quel texte opposez-vous à qui? C'est ça la question. Et que voulez-vous faire exactement? Je vous ai dit que lorsque des gens vous parlent de l'alternance politique, il faudra bien les regarder. Comment est-ce qu'ils ont géré leur maison? Même dans la Bible. Nous, dans la Bible, on nous dit, pour prétendre au poste d'ancien, de pasteur, d'encadreur, il faudra être d'abord...
preuve d'une bonne gestion de
ta propre maison. Comment est-ce que ces gens-là gèrent leur maison? Ils sont présidents.
Bon, ne tombons pas dans le jugement des valeurs, parce que nous ne vivons pas avec eux.
C'est des notoriétés publiques. Mm-hmm. Qui ne sait pas que, par exemple, tel est président de son parti depuis la création de ce parti? Et il y a des partis qui sont vieux de 30, de 50 ans. Il n'y a jamais eu alternance. Ils nomment tout le monde. Ils nomment tout le monde, du trésorier au chef de groupement, au représentant des partis, tout ça. Tous, ils les nomment. Et ces gens-là, c'est seulement lorsqu'il s'agit de revendiquer un poste dans un gouvernement de transition qui commence à vous dire qu'ils veulent de l'alternance. Ça, c'est de bonnes
choses. Nous l'avons vu aussi de l'autre côté de la société civile, oui, dont vous représentez aujourd'hui. Oui. Et des gens qui étaient hier dans la société civile, qui sont retrouvés aujourd'hui politiques.
C'est ça que je dis, malheureusement, on ne va pas au fond de la logique, on ne va pas au bout plutôt de la logique. Qu'est-ce que vous appelez société civile, selon vous? Si c'est une plateforme ou une structure composé par des individus qui sont des citoyens, membres des ONG, des confessions religieuses,
Qui
sont retrouvés, voilà. Si c'est ça,
J'ai dit, ben voilà, ils ne sont plus membres de la société civile. Si la société civile, elle existe, est dans son essence, est dans la logique qu'on pouvait bien lui accorder par rapport au rôle qu'elle doit savoir jouer, je me dis, la société civile, elle est intacte. Les individus peuvent passer, vous savez, les individus passent. Mais la société civile, elle est là. Aujourd'hui, si vous voulez les véritables représentants du peuple, mais vous les connaissez, vous savez où les trouver. Pas les gens qui vous parlent à la télé, à la radio, à longueur de journée, au nom de la société civile, au nom de la démocratie, alors qu'ils ne sont pas démocrates.
Alors, enfin,
je me dis, pour moi, le peuple congolais, après avoir connu tous ces échecs, toutes ces déceptions depuis 60 jusqu'à ce jour,
il y a un auditeur qui a parlé de politique qui se comporte comme des politiciens. Ben voilà. Hein, les politiques de 60.
C'est-à-dire, tout politicien qui se retrouve au pouvoir aujourd'hui, il emploiera toujours la même politique. Parce que on ne change pas l'équipe qui gagne, dit-on. Même les gens qui fustigent aujourd'hui, ils auront besoin de ces mêmes systèmes de jeu pour pouvoir se maintenir.
Voilà.
Donc, alors, je me dis, lorsque vous engagez un débat, par exemple, je dis au niveau des concertations, et qui devait être là? Que doit-on faire là-bas? Et après les résolutions, est-ce que les résolutions que nous avons prises sont des résolutions intelligentes? Parce que je me dis, lorsque...
Oui, Omar a dit, il faut prioriser.
Je me dis, quand vous dites que non, nous sommes convenus de ces lignes, à tant si c'était pareil. C'est-à-dire, une fois que les belligérants ont été d'accord avec les postes qu'ils leur avaient confiés, tout le reste du texte, on verra, dit, allons-y. Le plus important, c'est d'abord le gouvernement. Et puis, vous avez le gouvernement. Le jour où on vous dit, non, vous n'avez pas satisfait, monsieur, on vous fait partir. Oh non, respectons les accords. On ne respecte pas les accords. Mais on va respecter les accords aujourd'hui. On devait les respecter dès le départ. C'est pour ça que je demande à mes frères les Congolais, à mes sœurs les Congolaises, de pouvoir...
Mais on a l'impression que la transition avait quand même marché, les 1 plus 4. C'est une expérience jamais connue dans le monde qui n'a marché qu'à la RDC.
Vous savez pourquoi il avait marché? Parce que
nous sommes capables de respecter les textes.
Nous sommes capables. C'est comme maintenant, même pour les consultations. Ce n'est plus le moment de se passer de la communauté internationale. Ce que nous vivons aujourd'hui, le processus électoral actuel et tout ça là. Mais c'est le fruit de la communauté internationale. Donc, vous ne pouvez pas être d'accord dès le départ et en même temps, vous voulez vous détourner d'eux. Non.
Ça va. Donc, nous ne pouvons pas nous passer de
la communauté internationale aujourd'hui.
Ça doit être un des préalables pour...
Mais oui, c'est l'affaire de la communauté internationale.
Mais ça a marché.
Mais ça a marché. Les élections actuelles, vous savez comment ça se passe. Le gouvernement ne s'est pas dit, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas... Aujourd'hui, on dit au président Malumalu de présenter un programme. Tout le monde au niveau du Parlement a réclamé ça, surtout les membres de l'opposition, qu'on nous donne un calendrier global. Le calendrier global, vous allez l'exécuter avec quels moyens? C'est maintenant qu'on devait aborder la question des moyens. On ne parle pas des moyens, mais on dit qu'il nous faut un calendrier, Alors moi, quand je pose la question, à qui profite le crime? C'est finalement à tous ces gens-là qui sont là-bas. À tous ces gens-là qui vous disent aujourd'hui, non, t'as le processus, ça a été entaché de beaucoup de ceci, c'est là, le processus. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas aborder les débats. Le débat n'est pas sincère.
Henri Senga, on va prendre les derniers auditeurs, et puis on va revenir à vous pour que nous ramassions et nous allons conclure cette émission. Michel, vous êtes à Matadi. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour, M. Gilles.
Vous avez la parole, Michel.
Oui, en suivant votre débat, j'ai compris une chose, que les vrais ennemis du Congo, ce n'est pas d'Agamé comme une façon. Ce n'est pas le Rwanda. Les vrais ennemis du Congo sont au Congo. Frères, nous ne sommes pas des petits enfants. Et lorsque j'ai pu les suivre, l'invité, et lorsqu'il dit qu'il devait s'organiser d'abord des primaires au niveau des partis d'opposition, mais posez-vous la question, est-ce qu'au niveau de la majorité, Kabila, avant de devenir président, il a été élu dans quel parti? Et aujourd'hui, nous avançons vers les élections, dans l'armée. Ils ont déjà fait cette primaire pour nous montrer un candidat qu'ils ont choisi.
Ils ont invité à parler de part et d'autre, en tout cas dans tous les partis politiques, sans réception aucune. Je vois qu'il faut de part qu'on lui colle ce qu'il n'a pas dit, hein, Michel. Oui, Michel, on va quand même retirer pour que ça ne reste pas dans l'esprit des gens. Il ne l'a pas dit, il a dit, en tout cas dans tous les partis politiques, il n'y a pas une culture démocratique, c'est-à-dire que ce soit à l'AMP ou à l'opposition, on n'organise pas des primaires au niveau de la base.
Ok, je continue. Frère, si nous sommes devant la nation et que nous prenons la parole. Parce que lorsque nous sommes devant la nation, nous sommes devant Dieu. Lorsque nous prenons acte que le gouvernement de la cohésion nationale devait s'installer dans un bref délai, prenez le titre grammatical. Bref délai veut dire quoi? C'était délai à court terme. Le court terme est commencé de 1 à 3 mois. Et aujourd'hui, nous sommes déjà dans une année. Comment nous devons amener ces pays, nous vivons ces pays, comme si nous étions des femmes? Non. On devait avoir les règles de la parole. Vous savez, toutes ces questions qui sont dans lesquelles nous sommes en train de tourner, les problèmes et les pouvoirs.
Mm-hmm.
Moi, je crois, tout va à Joseph Kabila. S'il fait que le Congo puisse aller en avant, c'est lui qui a la clé.
Mm-hmm.
Parce que le problème, il est les gens qui sont tout autour de lui. C'est sûr qu'il dit, c'est sûr qu'il le dit.
Michel, je crois qu'on a compris. Notre invité l'a dit, à un certain moment, il faut que certains responsables puissent prendre en tout cas leurs responsabilités, se prononcer par rapport à des questions des leurs pour éclairer la lanterne des uns et des autres, pour éviter parfois des spéculations et aussi des supputations qui sont parfois très stériles. Hein? Donc il a couché à rien. Merci. Alors, Michel, on va prendre Armand qui est à Guadeloupe, à l'Équateur. Armand, bonjour.
Bonjour.
Oui, Armand, je crois que les autres ont déjà placé le préalable qui n'ont pas marché. Vous allez faire des propositions. Pour qu'on arrive aujourd'hui à accélérer la mise en œuvre des recommandations, qu'est-ce qu'il faut de faire?
Oui, je pense que cela permettait d'avoir un petit peu de journaliste. Je voulais dire tout simplement la concertation.
Oui, rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps. Donc, vous n'avez que 30 secondes.
Oui, je dis la concertation, c'est une position négative parce que les Congolais n'ont pas vraiment cette culture-là de baisser le pouvoir avant que le pouvoir le laisse. Alors, pour moi, j'aurais pensé que nous sommes au régime démocratique. Je pense que le président de la République et son staff étaient déposés. Là, ça fera une honneur, ça fera un honneur pour toute une nation en disant que voilà, que les cas qui étaient passés au Congo. Donc, le président de la République a le pouvoir d'une façon civile.
Alors, voilà. Merci beaucoup, Armand. Ghislain, on va terminer avec vous. Hein. Mbachi, vous avez également 45 secondes. Ghislain, vous avez la parole. Ghislain, vous êtes avec nous? Voilà, il n'est plus en ligne. On va dire merci quand même à tous ceux qui nous ont écrit. On pouvait pas tout lire parce qu'il y a des messages qui tombent, en tout cas, sur notre page Facebook. Le temps peut-être d'accorder la parole à notre invité qui va conclure cette émission. Alors, c'était très, très passionnant. Les gens, ils mettent quand même leur passion par rapport à ce genre de débats.
Ouais.
Vous êtes de la société civile, Henri Sega. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces débats? Concertation nationale, octobre 2013, octobre 2014. Exactement un an que les travaux se sont clôturés. Aujourd'hui, on a du mal à appliquer les recommandations. Quelques-unes ont été peut-être exécutées, mais les autres, en tout cas, la majeure partie, c'est difficile. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Moi, je pourrais dire, à mon sens, que les concertations nationales doivent maintenant se tenir. Les véritables.
Donc vous appuyez ce qui parle du dialogue,
Mais le dialogue, c'est la même chose, les termes et tout ça. En tout cas, pour moi, le problème, c'est qu'il faudra que nous puissions engager un débat responsable avec
qui seront concernés.
Mais oui, on sait le faire. Vous savez que là, vous dites qu'on n'a que 30 secondes, on ne sait pas
en faire tout ça.
Mais moi, de mon côté, je me dis, on doit finalement ouvrir un véritable débat. Les concertations nationales doivent commencer. Ça n'a pas encore commencé. Ça doit commencer. Vous comprendrez que pour moi, je me suis dit, ça c'était un ballon sondage qui nous a permis de savoir. Donc tout le monde se dit, en tout cas franchement, on doit dialoguer. Franchement, on doit. Même notre ami qui parle de l'Équateur, par exemple, il nous dit, il est temps que les autres puissent déposer. Je me dis, oui, même pour déposer, il faut se soucier de la forme. Le chef de l'État va déposer le pouvoir. Il va le laisser où? Il va le laisser au mausolée, il le laisse où? Vous voulez qu'il le dépose où? Comme un colis, comme un sac? Ou bien il l'amène à DHL, ou bien il l'amène à la poste, il dépose où?
Non, la Constitution.
Je me dis, la Constitution. Si c'est la Constitution, avec ce que nous présentons aujourd'hui, vous allez respecter la constitution où, finalement, je me demande, cette constitution, elle a été morcelée. Il y a une partie où les uns veulent ou pensent la respecter en faisant ceci ou cela, les autres pensent aussi la violer, d'autres pensent aussi non, que c'est les autres qui violent et tout ça. Je me dis, c'est tout ça là qu'il nous faut. Je me suis dit, vous savez, peut-être, moi, je ne dis pas, je n'ai pas reçu mandat de parler pour son compte, je me dis, j'ai réfléchi tout simplement à haute voix. Je me dis, même celui que vous prétendez peut-être qui paraît comme étant quelqu'un qui ne veut pas déposer le pouvoir aujourd'hui. Peut-être que si quelqu'un pouvait, s'il pouvait se confier à quelqu'un, il pouvait lui dire que non, je suis fatigué de cette histoire, moi aussi je voudrais aller me reposer. Mais il doit déposer entre les mains de qui? C'est comme ça que j'ai dit,
il faut engageons le débat. Débat.
Il faut un véritable débat. Nous devons tous nous asseoir autour d'une table, toutes les parties, ainsi de suite, et on pourra aborder question des moyens, question de temps, question de réalisme même, parce que par moment, il n'y a pas de réalisme dans ce que nous faisons. C'est parce que, bon, on doit seulement se partager le gâteau, dès que tel est d'accord, tel autre est d'accord. Bon, les autres questions, on verra plus tard. C'est ce qu'on a fait depuis 60. Donc, c'est ça qu'il faut éviter à mon avis.
Henri Sengar, membre de la société civile et président d'un groupe des Églises de Réveil. Merci d'avoir la mission J'aime Jésus. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce programme. Nous disons merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Sylvain Matundu qui a assuré la mise en onde de cette émission. Gilly Feza a réalisé ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungenbo sous la supervision de Ben Kabamba. Vous pouvez réécouter ce programme sur www.radiocapi.net et en rediffusion tout à l'heure dans la soirée. À très bientôt pour un autre débat.